Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Suzanne Sima, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire de philosophie. Vous avez enseigné en Cagnes, à Aix-en-Provence. Vous avez enchanté un très grand nombre d'élèves. Vous êtes actuellement directrice de collection chez Armand Collin. Et si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est pour parler d'un gastrosophe, comme il s'appelle, un homme savoureux du XVIIIe siècle, sur lequel vous avez travaillé et auquel vous avez consacré un ouvrage paru chez Hermann en 2012, « Du goût de Montesquieu à Brillat-Savarin ». Alors, ma première question concerne l'homme, Brillat-Savarin. Qui était cet auteur de la physiologie du goût, ni médecin, ni cuisinier, mais magistrat? Et comment a-t-il traversé ce siècle mouvementé?
Brillat-Savarin est né en 1755 et il est mort en 1826. Mais c'est un homme du 18e, c'est un penseur du 18e. Et imprégné par la philosophie des encyclopédistes en particulier et par leur rationalisme non dogmatique et également celui de ce qu'on a appelé les idéologues qui sont en fait des physiologues, des Studotracy, Cabanis et qui sont eux-mêmes des disciples de Condillac. Alors qui est-il? C'est un gastronome. Le mot gastronomie n'est pas inventé par Brillat-Savarin, mais par un certain Berchoux. Mais chez Brillat-Savarin, le mot recouvre un tout autre champ sémantique et de tout autre intérêt. Il est une sorte d'encyclopédie, à sa manière, à la fois des mœurs de son temps, mais surtout de la gastronomie, telle qu'elle commence à prendre place au 19e et déjà au 18e. Roland Barthes dit, puisque vous me demandez qui est Brillat-Savarin, c'est un sujet polymorphe, c'est le mot qu'emploie Roland Barthes, juriste, diplomate, musicien, mondain, et on peut ajouter polyglotte, un peu médecin, un peu historien-philosophe, quand il fait de la philosophie, il en fait en tant qu'historien, et quand il fait de l'histoire, il en fait en tant que philosophe. Homme de goût, amoureux de jolies gourmandes, sachant recevoir et faisant grand cas de l'amitié et de la convivialité. Alors, je voudrais juste lire deux aphorismes qu'il y a au début de la physiologie du goût, pour l'amitié et pour la convivialité. L'aphorisme 18, celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qui leur est préparé n'est pas digne d'avoir des amis. Ça, c'est pour l'amitié.
Un art de vivre.
Et pour la convivialité, qui est pour lui un des éléments principaux de ce qu'il appelle le plaisir de la table, auquel il consacre une méditation particulière. Et convier quelqu'un, dit-il à l'aphorisme 20, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Ça dit qui est cet homme. Donc, du point de vue de l'amitié, de la convivialité. Alors, il a été effectivement avocat à 23 ans et il est, disons, vite parvenu à un autre stade du point de vue juridique. Il a été en 1800. En 1778, il est avocat. En 1800, il est conseiller à la Cour de cassation, du moins dans la dernière partie de sa vie.
Au magistrat,
et jusqu'à la fin de sa vie, il gardera des fonctions de magistrat. Il fut également musicien, chef d'une troupe de musiciens, et il a en quelque sorte pratiqué ce talent aussi quand il a été en exil. Il s'est exilé après 93 en Amérique, à New York, et il a fait du violon dans un théâtre. Il a travaillé comme violoniste et enseigné un peu le français. En 89, puisqu'il a traversé donc la Révolution, il n'a pas été maltraité. La Révolution ne lui a pas été défavorable. Et il était représentant du tiers-État aux États généraux de Versailles. Mm-hmm. Mais en 93, il s'exile.
Donc, il a raison, c'est une période dangereuse.
Dangereuse. Là, il reste maire quand même de Belley, mm-hmm. il est né à Belley, jusqu'en 93. Il s'exile en 93, c'est la chute des Girondins, mm-hmm. donc des modérés. Et il sort de la Révolution. Mm-hmm. Il s'exile et il vit 3 ans aux États-Unis en très bonne entente avec les Américains. Il parle très bien leur langue et il vit agréablement. Il rêve quand même de revenir. En 96, retour en France où il va à nouveau occuper un poste de magistrat et où il va fréquenter les salons. Le salon de sa cousine, Juliette Récamier, mmh. qu'il aime en secret, et que c'est là qu'il rencontre les idéologues dont j'ai parlé tout à l'heure. En 1825, il publie La physiologie du goût. Ce n'est pas son unique livre. Il a écrit des livres en tant que juriste, sur le duel en particulier. Mmh. Et il meurt en 1826. D'une pneumonie attrapée lors d'une messe à la mémoire de la mort du roi.
Alors, peut-être que nous allons insister maintenant sur le projet qu'il anime dans la physiologie du goût et qu'est-ce que signifie le projet d'une physiologie ?
Alors, il en parle dans sa préface en présentant l'idée mère qui a conduit tout l'ouvrage, à savoir... Et je le cite, qu'il y a beaucoup mieux à faire concernant les plaisirs de la table que des livres de cuisine.
Mmh. Donc, qu'il ne dédaigne pas quand même, mais ce n'est pas son propos.
Non seulement il ne méprise pas la cuisine et l'art culinaire, mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait sur l'art culinaire, sur le goût culinaire, et il se propose de le faire en physiologue. C'est-à-dire, il va consacrer une étude scientifique. Alors, quand il définit la gastronomie, il la met parmi les sciences, il la met en relation avec la physique, avec la chimie. Il voulait écrire un traité de chimie, donc la question de la chimie du point de vue culinaire, lui importe déjà, sur les fonctions essentielles donc, de l'organisme dans leur rapport au mécanisme du goût, à la sensation de goût. Et par conséquent, il est physiologue d'abord en ce sens-là. Mmh. Et il étudie l'organe du goût, sa fonction, son mécanisme, la sensation de goût, le support global de l'organisme à la sensation de goût, les objets du goût, mmh. les aliments. Et justement, quand il parle de la chimie, il dit à quel point elle nous importe pour ce qui est de la connaissance des aliments. Il étudie le moi sensitif, ce moi supporte le goût. Et il y a des passages magnifiques sur l'appétit. Hein, il y a un chapitre, une méditation consacrée à l'appétit. En physiologue, il étudie également les mœurs. Alors, il faut dire que le mot physiologie est pris à cette époque mm-hmm. Aussi en un autre sens, autre que celui d'étude des fonctions organiques, mm-hmm. Le sens que va lui donner Balzac, par exemple, quand il écrit une physiologie du mariage, mm-hmm. hein, ou bien Alibert, qui écrit une physiologie des passions. Alors, Brillat Savarin l'entend, bien entendu, au sens scientifique, mais il l'entend également en ce sens qu'on pourrait dire anthropologique. Anthropologique et peut-être un peu éthique aussi, parce qu'il s'agit d'un projet en fait qui est double. Vous me demandiez quel était son projet. Il le définit comme double. Je n'ai jamais perdu de vue ce projet. Le premier est de poser les bases théoriques de la gastronomie, et afin qu'elle puisse se placer parmi les sciences, et le second, de définir avec précision ce qu'on doit entendre par gourmandise, voilà ce que j'appelle éthique, et de séparer pour toujours cette qualité sociale de la gloutonnerie et de l'intempérance, avec lequel on l'a si mal à propos confondu. Le but est donc à la fois scientifique et éthique, au sens large du mmh. terme, c'est-à-dire doublement rationnel. Mmh. Il veut, en philosophe et non en gourmand, étudier la gourmandise et la gastronomie. Et c'est en théoricien du goût et non en tant que gourmet qu'il entend apporter une contribution rationnelle à une physiologie de la gourmandise.
Alors, ce qui m'intéresserait, Suzanne Sima, c'est peut-être que nous comparions le changement et les permanences du rapport à la diététique entre l'époque de Brillat-Savarin et aujourd'hui. Et j'aurais eu envie que vous nous expliquiez brièvement ce qu'il en était à l'époque de Brillat-Savarin de la maigreur et de l'obésité comparé aux préoccupations actuelles.
Pour ce qui est en tout cas des préoccupations de Brillat-Savarin lui-même, on sait que très modestement, il dit qu'il est lui-même il a une sorte d'obésité, mm-hmm. mais il le dit timidement, si je puis dire. Il se dit gastrophore. Mm-hmm. Il est atteint de gastrophorie, c'est-à-dire c'est cette obésité qui se borne au ventre.
C'est
comme
ça,
il dit.
Avec des jambes très délicates.
Oui, mais lui, il dit que justement, par rapport aux obèses ordinaires, oui. qui ont des membres qui grossissent et qui sont de partout, en quelque sorte, qui ont perdu l'harmonie et l'équilibre de leur corps, lui, il se dit, j'ai encore le bas de la jambe sec et le nerf détaché comme un cheval arabe. Alors, donc, il a quand même physiquement gardé un aspect qui lui semble encore esthétique. Majestueux même. Il dit que son ventre est un peu majestueux.
Mais il parle de l'obésité.
Alors, il en parle. Il en parle. Et alors, pour ce qui est de la diététique, en tout cas, il emploie le mot diète en son sens premier mm-hmm. et pas au sens de remède à la maladie.
Alors, diète au sens premier.
Au sens premier, c'est-à-dire diète, c'est le régime de vie. Mm-hmm. Et il l'emploie, je le cite, comme art de bien se nourrir. Car l'homme mal nourri ne peut longtemps suffire aux fatigues d'un travail prolongé. Autrement dit, la diététique commande de se nourrir pour réparer ses forces avec prudence et discernement. Et que la raison joue également dans la notion même de diététique. Alors l'obésité. Mmh. L'obésité, il y a tout un article consacré et assez long mmh. À l'obésité, un chapitre. Elle appelle beaucoup plus qu'une simple diète. Alors, qui est obèse à ses yeux ? J'entends par obésité cet état de congestion graisseuse mmh. où, sans que l'individu soit malade, les membres augmentent peu à peu de volume et perdent leur forme et leur harmonie primitive. Alors, vous me demandiez s'il avait les mêmes soucis que nous aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas exactement la même chose. Il a essentiellement un souci esthétique, c'est vrai. L'obésité semble contrarier les normes esthétiques plutôt que médicales. Mmh. L'obèse n'est pas un malade pour lui.
C'est très important. Et d'ailleurs,
l'obèse n'est pas un malade.
L'obèse n'est pas un malade.
Ce n'est pas un malade. Et il le dit très clairement.
Sauf pour les laboratoires pharmaceutiques qui veulent leur imposer des médicaments.
Il dit, j'entends par obésité cet état graisseux, sans que l'individu soit malade. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. Ce n'est pas un malade. Et donc, les normes esthétiques et peut-être même éthiques mm-hmm, sont contrariées. Par l'obésité, mais pas vraiment du point de vue malade. Alors, l'explication qu'il donne de l'obésité peut rejoindre nos préoccupations. Effectivement, il dit, c'est bien sûr, il y a une disposition, un tempérament mm-hmm. de l'obèse qui fait que, bon, il a besoin de manger. Les nutriments également, il mange trop de farineux voilà. et des féculents et les mauvaises habitudes. Et il dort trop. Et ne fait pas d'exercice. Voilà. Vous voyez, ça rejoint les préoccupations
contemporaines dans la lutte, voilà. par exemple, contre la sédentarité.
Contre les farineux, c'est clair. Tous les régimes recommandent.
Permanence là-dessus.
Là-dessus.
Suzanne Sima, nous allons arriver au terme de cette émission. Alors, je voudrais vous poser une question sur le rationalisme de Brillat-Savarin et peut-être aussi sur le vôtre. C'est-à-dire. Comment peut-on dire de Brillat-Savarin qu'il est rationaliste ? Et pour clore cette émission, comment vous
incarnez ? Je me situe par rapport à lui. Je pense que sa formation, déjà, hein, par sa formation, il a été formé par les encyclopédistes mm-hmm. et par les idéologues, par son style de vie, par son parcours, et surtout par cette volonté d'appliquer la raison philosophique La raison est considérée par lui, comme elle l'est par Montesquieu, comme un sens le plus parfait, le plus exquis de nos sens. Mm-hmm. Et par conséquent, il veut l'appliquer à la sensibilité, à la sensualité même, je dirais, à tous les sens, et en particulier à cette vie esthétique, non pas au sens noble et au sens pur de l'esthétique, mais de cette vie qui se sent, se nourrissant, et qui sent ce qui la nourrit et ce qui la reconstitue. Et il veut donc penser aussi les plaisirs de cette vie-là, c'est-à-dire la gastronomie et l'art comporte l'art culinaire. Elle est science, mais elle est aussi art culinaire. Comment le goût culinaire peut faire l'objet d'une réflexion rationnelle et d'un rationalisme qui admet la sensibilité comme pouvant constituer une branche de la raison et bien non sûr. Pas quelque chose d'antithétique par rapport à la raison.
Et donc, d'une certaine façon, la leçon de Brillat-Savarin, c'est de nous dire comment la raison peut se concilier avec l'agréable, l'agrément.
Ah, mais non seulement elle peut se concilier avec l'agréable, mais elle doit le penser. Elle doit le considérer comme un objet philosophique, comme il l'a fait lui-même. La sensation de goût, l'appétit, le plaisir de la table, tout cela est l'aliment. L'aliment est un objet tout à fait pensable par la raison.
Et même le bon objet de la raison.
Le bon objet de la raison. Et puis, moi, j'adhère au rationalisme dans ce sens-là.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Suzanne Simage, je vous remercie. Dernier numéro de Raison présente s'intitule « Émancipation plurielle ». Je remercie Bruno Sourcy et Jean-Baptiste Etcheparrebord qui ont rendu possible cette émission et je renvoie au livre de Suzanne Sima, paru chez Hermann, « Du goût » de Montesquieu à Brillat-Savarin. Je vous dis au mois prochain.